En donnant il y a quelques mois pour titre à mes propos d'aujourd'hui la formule « crépuscule du musée », c'était déjà au pluriel, mais il n'y avait pas encore de point d'interrogation, je n'entrevoyais pas la contradiction dans laquelle j'allais me trouver, du seul fait que jour après jour, mon activité tente d'inventer une pratique du musée qui rêve de contribuer un peu à en différer le déclin. Dans une époque qui a vu se multiplier les musées et leurs visiteurs, une période où le champ du muséifiable s'est progressivement étendu à l'ensemble des choses, à tel point que l'on peut définir cette époque comme l'âge des musées. Comment songer à parler de crépuscule du musée ? Toute idée qui triomphe court à sa perte, remarquait André Breton. Peut-être nous faut-il redouter que sous ce triomphe mondial des musées se trame déjà la ruine de son idée. Quelle est donc aujourd'hui la condition du musée, et en particulier du musée d'art contemporain ? À quel problème est-il confronté ? À quelles questions doit-il répondre ? Quel est en somme son horizon déterminant ? J'embrosserai grossièrement la description, sans m'attarder sur aucun de ces aspects qui vous sont évidemment bien connus. La crise économique mondiale, son traitement libéral par la réduction des dépenses publiques et son impact mécanique sur le financement public de la culture. La corollaire privatisation progressive des activités culturelles et leur consécutif infléchissement marchand. L'injonction faite aux institutions de se comprendre et de se comporter comme des entreprises, de développer la part de leur autofinancement, leur évaluation essentiellement quantitative et médiatique. La tendance de musées de plus en plus nombreux à externaliser leurs charges en facturant des frais de dossier de prêts exorbitants, en conditionnant les prêts au financement de restaurations curatives, en imposant, c'est la rançon de la dictature de la conservation préventive, la fabrication de caisses toujours plus onéreuses et sans offrir le choix du fabricant, en exigeant des convoyeurs bien souvent inutiles, mais aussi parfois des transporteurs et des assureurs, à la limite du mercantilisme, quand ce n'est pas du conflit d'intérêts. L'affaiblissement, sinon l'affaissement de l'esprit de service public et de solidarité entre pairs, dont cette évolution fait symptôme, tout comme la segmentation des visiteurs en public cible et la transformation des usagers en clients. Autant de données qui contribuent à la paupérisation des musées et attestent l'évolution idéologique qui en modifie l'image, la pratique et jusqu'au projet. Qu'attendent aujourd'hui du musée le politique et son double technocrate ? Qu'il soit un facteur d'attractivité et donc de développement économique. Là s'évalue sa vraie légitimité, d'où découle son aptitude à drainer les crédits d'investissement et de fonctionnement. Qui songerait encore à évaluer la rentabilité scientifique ou artistique d'un musée ? On estime d'abord les programmes à l'aune des retours sur investissement. À ce contexte, il faut ajouter l'évolution récente du monde de l'art qui reflète les nouveaux rapports de forces économiques et financiers à l'échelle globale et se traduit par une redistribution des positions d'influence. Les collectionneurs, ou du moins les acheteurs d'art moderne ou contemporain, de plus en plus nombreux, de plus en plus riches, ont conquis une place centrale et une capacité à valoriser, du point de vue monétaire et artistique, leurs investissements spéculatifs. Jouets ou acteurs des maisons de vente et des galeries internationales, ils produisent une histoire malthusienne de l'art contemporain, le plus souvent constitué d'objets classiques, aisément déplaçables, stockables dans les ports francs ou présentables dans leurs vastes espaces domestiques. Les galeries, à part quelques entreprises d'échelle mondiale, ont cédé du terrain aux maisons de vente qui sont devenues opératrices du premier marché. L'historien, le critique, le conservateur, l'expert ont cédé la place aux conseillers de collection privés ou aux curateurs indépendants qui squattent les institutions en mal d'imagination ou d'événement. Le développement exponentiel du marché de l'art contemporain, les moyens sans commune mesure avec ceux des musées, déployés par les maisons de vente, les grands marchands, les dits grands collectionneurs, étranglent les possibilités d'acquisition des collections publiques. D'autres acteurs, souvent de grande qualité professionnelle, sont apparus ou se sont développés dans la période récente. Les collections régionales, ce qu'on appelle les FRAC, qui inventent en France une nouvelle sorte de musée. Les centres d'art de tout gabarit, les écoles d'art qui se dotent d'espaces d'exposition, les biennales ainsi que les foires et salons qui surgissent partout dans le monde. Les lieux et les types de monstration et de validation de l'art se sont donc multipliés, réduisant d'autant la vocation référentielle du musée. Ainsi, les musées d'art contemporain glissent-ils progressivement vers la périphérie du monde de l'art, sauf à relayer les prescriptions de ces nouveaux acteurs économiques et symboliques, seule garantie pour eux de visibilité médiatique et de mansuétude politique. Pour mesurer cette perte d'influence, demandons-nous, par exemple, combien, parmi les musées construits dans le monde ces 40 dernières années, sont des bâtiments réellement adéquats à leur fonction. Combien ne sont pas d'abord des gestes somptuaires de politiciens, emphatisés par des gestes d'architectes, égotistes, arrogants et ignorants des besoins muséologiques et surtout artistiques. L'emblème de ce dédain des œuvres, des artistes et des conservateurs n'est-il pas le si fameux musée de Bilbao de Frank Gehry, que Zaha Hadid est pourtant parvenu à dépasser dans l'inapproprié dispendieux avec le maxi de Rome? Le pire n'étant jamais à exclure, le futur LACMA de Peter Zumthor ne s'annonce que comme le signe architectural identifiant qui faisait jusqu'alors défaut à Los Angeles, ville qui, sans cette fleur noire de 650 millions de dollars, courrait le risque de perdre sa réputation de centre de l'architecture innovante. Je cite le LACMA. Le triomphe mondial des musées, et en particulier des musées d'art contemporain, n'est-il pas une amère victoire quand le contenant ne vise plus qu'à valoir pour lui-même, son contenu contingent n'ayant plus de rôle qu'anecdotique? Je fais une petite pause pour commenter ce merveilleux projet qui passe par la destruction de la plupart des bâtiments du LACMA. Il ne conserve que les bâtiments de piano qui sont au-dessus. Ils détruisent le sublime musée japonais, par exemple. Vous imaginez, nous sommes à Los Angeles. Il fait toujours beau à Los Angeles. Il fait très souvent très chaud à Los Angeles. Ils construisent un barbecue. Une telle surface en béton noir sera impossible à climatiser, ou en tout cas coûtera une fortune. Ça ne fonctionne que sur un ré et un plateau. Ça veut dire que toute la périphérie est vitrée, avec, 3 000, 10 000 lux, et dès que vous écartez, vous avez encore à 8 mètres, 10 mètres, 500 lux. L'essentiel du musée, évidemment, n'aura pas d'angle, sûrement pas de 3 angles consécutifs. Je parle des salles. Tout ça sera en climatisation, en éclairage non zénital. Et on se battra pour éviter les inconvénients que toutes ces courbes produisent. Mais c'est le signe identifiant de Los Angeles demain. Quel cauchemar. Nous avons laissé faire ça, nous tous, hein, en approuvant ce qui s'est passé ces 40 dernières années. Comme les grandes religions, le musée a connu ses phases de gestation confidentielle, d'émergence innovante, de déploiement dominant, avant de traverser la séquence d'émiettement schismatique et sectaire. Depuis l'avènement du grand musée encyclopédique du XIXe siècle, acmé de l'idée de musée, notre institution a connu de nombreuses péripéties. Le démembrement du musée unique dans sa dissémination à travers les musées spécialisés, thématiques, chronologiques ou monographiques. L'inauguration à Rodez du mausolée consacré à Soulages en est en France la plus récente illustration. Cette parcellisation institutionnelle s'est vue amplifiée par la multiplication des musées privés, de fondations, de collectionneurs ou d'artistes. Si l'offre d'art en est accrue, la diversité des points de vue en est multipliée, les intérêts particuliers et les effets de vanité narcissique des musées de collectionneurs et de fondations, comme les illusions historiques diffusées par les musées monographiques, brouillent considérablement la perception et la compréhension du travail scientifique, historiographique et expositionnel des musées publics. L'élargissement du champ des objets reçus au nom de l'art depuis les surréalistes, objets trouvés, objets issus des artisanats populaires, œuvres résultant de jeux collectifs, art des fous, des enfants, des sauvages, des singuliers et autres outsiders, dans le cadre d'une pensée refusant de séparer et de hiérarchiser les formes d'expression, a constitué un premier assaut contre le canon muséal classique, mettant à mal, de concert avec les expressionnismes et les réalismes de l'entre-deux-guerres, le récit moderne. La fin du bloc soviétique, le développement des pensées post-coloniales, des conceptions LGBT, des affirmations ethniques et la mondialisation ont achevé de battre en brèche la vision machiste, blanche, européo et américano-centré du monde de l'art et du monde et de l'art. L'effondrement du canon moderniste sur fond d'épuisement des grands récits, l'effacement des critères historico-formalistes au profit des arguments dits anthropologiques. Ce basculement de l'histoire de l'art dans la géographie, pour reprendre une célèbre formule de Kim Levin, la multiplication exponentielle des artistes et la multipolarisation de la scène artistique. Place désormais le musée d'art contemporain devant l'impossibilité de relever le défi du présent. Le temps confortable où le MoMA pouvait penser et donner à croire qu'il embrassait tout le champ de la modernité au XXe siècle est depuis longtemps révolu. Ces nouveaux accrochages, encore bien hésitants, et ceux du MNAM à Paris, il faut à cet égard rendre justice à Catherine Grenier, ne sont encore que des essais de redistribution des cartes historiques, de dédommagement symbolique à l'intention des artistes minorés ou ignorés. Les nouveaux enjeux de l'historiographie du moment moderne sont encore loin d'avoir été explorés. Ajoutons qu'à cette crise quantitative, historique et paradigmatique s'ajoute le retour de formes artistiques critiques, construites contre l'institution et souvent en dehors d'elle, ou simplement rétives à la muséification, la performance par exemple. Mais l'horizon contemporain du musée, c'est aussi et peut-être surtout ce que l'on pourrait appeler la mutation anthropo-numérique en cours. Nous croyons encore que le musée est la maison des objets concrets, des choses matérielles qui adviennent dans l'espace et dont les dispositifs de coprésence sont tout le travail du musée en tant que fabrique de situations expositionnelles à caractère esthético-herméneutique. Dans le musée, comme dans l'histoire, une œuvre n'est jamais seule, elle est toujours inscrite dans une chaîne syntaxique, quel qu'en soit le niveau d'élaboration. Voici que Google s'est engagé dans la constitution progressive de la version numérique du déjà vieux rêve du musée universel dont il vous sera parlé tout à l'heure. Cette entreprise offre assurément aux regardeurs de nombreux avantages, sauf qu'il n'y a plus d'œuvres, plus que de petites ombres chatoyantes sans matérialité. Les référents de ces images inexposées et sans négatif, c'est-à-dire sans preuve tangible d'un a-été infalsifié, continuent de subsister quelque part où ils finiront, ces référents, peut-être, par devenir des choses encombrantes qu'il suffira d'entreposer à l'abri du jour et des regards jusqu'à ce qu'ils paraissent superflus et trop coûteux de conserver ces stocks de choses devenues par prodige les fantômes de leurs images. Plus que la gravure ou la photographie qui ont miné ou atténué le régime auratique des œuvres d'art, leurs fascinants ectoplasmes numériques parfois déployés sur des murs d'écran, sans relation avec les formats et les contextes originaux, ont un mode d'existence technico-spectaculaire radicalement différent de l'unique apparaître des œuvres matérielles, insuperposables, irréductibles à la reproduction dans ces milliards de pixels lumineux qu'un interrupteur suffit à néantiser. Ce n'est probablement pas cette concurrence des apparaîtres antinomiques qui fragilise le plus le musée, mais l'ensemble des changements anthropologiques qu'induit le monde numérique. Cette véritable révolution coïncide avec la globalisation des échanges, l'accompagne et la structure, transforme en profondeur notre sensibilité et nos comportements, notre vie quotidienne et progressivement notre manière d'être au monde. On a parlé de rupture anthropologique à propos des effets de la multiplication des écrans, d'Internet et de ce qu'on nomme les réseaux sociaux. Notre usage du temps en est complètement modifié, comme nos relations avec autrui. Mais c'est aussi notre économie mémorielle qui s'en trouve bouleversée. Quand presque toutes les informations, quel qu'en soit le coefficient de vérité, sont à la portée d'un clic, la mémoire tend à s'externaliser. Ce que l'apparition et la diffusion du livre imprimé a changé il y a quelques siècles dans notre rapport à la mémoire et au savoir, Internet en accélère et en démultiplie les conséquences. Nous sommes de plus en plus accros à nos écrans, dépendants des machines que nous avons imaginées pour nous libérer. Toute la culture en est reconfigurée. Et la relation vivante aux œuvres réelles risque d'apparaître de moins en moins nécessaire devant la prolifération de leur double numérique. Ne voit-on pas se répandre dans les musées des visiteurs qui ne regardent plus que la tablette avec laquelle ils filment en plan séquence les murs entre lesquels ils passent sans s'arrêter, sauf quand ils cherchent sur leur smartphone des indications à propos de l'œuvre qu'ils auraient sous les yeux s'ils songeaient encore à la contempler. Outre le caractère chronophage de nos prothèses informatiques, qui a pour conséquence une réduction du temps disponible pour les anciennes activités culturelles, c'est la construction d'un univers d'interconnexion entre objets augmentés et humains augmentés, entre néo-objets et post-humains, qui commence à modifier en profondeur notre activité perceptive et cognitive, notre être dans le monde. Dans « L'être et l'écran », Stéphane Vial affirme que, je cite, « notre faculté de percevoir, autrefois confondue avec une procédure naturelle, dépend des appareils du système technique dans lequel nous vivons. La révolution numérique, loin d'être seulement une révolution technologique dans les objets, est avant tout une révolution phénoménologique dans les sujets. » Fin de citation. Cependant, quand il analyse ce qu'il appelle l'ontophanie numérique, Stéphane Vial ne lui reconnaît qu'un assez bas degré d'aura phénoménologique, à l'opposé de l'indépassable ontophanie du face-à-face, coprésence authentique, corps et âme de deux personnes. De même que les montagnes qui entourent Genève, ou le Magnolia qui grandit devant le Mamco, admirer cette image artificielle. Aurons peut-être toujours, si l'on en croit Walter Benjamin, une aura plus forte que la photographie que je vous en montre. De même, peut-on espérer que le musée, comme appareil ontophanique du face-à-face avec les œuvres, prévale durablement sur les résidus oratiques de nos diaporamas numériques. Encore faudra-t-il que notre capacité d'expérience du réel ne se soit pas atrophiée dans le labyrinthe de ses semblants. L'horizon que je viens d'esquisser à trop grands traits n'était évidemment pas le même il y a 20 ans, alors que je cherchais à définir une conception et une pratique renouvelée du musée d'art contemporain. Quand j'ai commencé à réfléchir au projet du MAMCO, au début des années 90, j'avais proposé de le nommer MACOM, c'est-à-dire musée d'art contemporain et moderne. Les autorités municipales d'alors ont refusé sans débat cette formule inédite. Notre musée est donc dénommé musée d'art moderne et contemporain, bien qu'il n'ait que très rarement montré des œuvres modernes, tandis qu'il lui est arrivé de présenter, certes aussi parcimonieusement, des œuvres des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. C'est actuellement au MAMCO. L'art moderne. L'art créé depuis entre 1905 et 1945 ou 1960 est le grand absent des collections publiques genevoises. Elles sont loin d'être les seules dans ce cas. Mais la notion de modernité ne s'applique pas seulement à une période de l'activité artistique. On peut y entendre, vous le savez, un ensemble de concepts et de valeurs qui en ont fait un projet général, le rêve d'une refondation de la vie matérielle et morale. En d'autres termes, un projet politique et esthétique. C'est à cette idée du moderne que je songeais en inversant les termes moderne et contemporain. Contemporain ne signifie pas grand-chose, ne porte en tout cas ni valeur ni projet. C'est une condition temporaire, presque un destin. Si nous l'avons jamais été, nous ne sommes plus modernes. Il ne nous échoit plus que d'être contemporains. Proposer un musée d'art contemporain et moderne, c'était indiquer que nous regardions le contemporain avec le moderne dans son adossement problématique au moment moderne, dans l'horizon et à l'aune de son projet interrompu, inabouti, échoué. Depuis aussi ce que nous ne pourrions pas montrer faute de collection ad hoc. C'était la première limite du MAMCO. Des limites, il y en avait d'autres, nombreuses et intéressantes. Quand nous avons ouvert les portes du musée en 1994, sa collection propre se réduisait à celle très modeste que lui avait offerte l'association de ses amis. Ce fut notre chance, celle qui nous permit de pratiquer le musée à nouveaux frais. Au lieu d'y voir le réceptacle d'un trésor destiné à être conservé, inventorié, décrit, étudié et pour partie montré, je me suis placé du point de vue de l'expérience du visiteur. Et de même que les Alpes ne sont pas seulement un massif montagneux qui dresse un vaste obstacle au cœur de l'Europe, mais également un système de vallées communiquant entre elles, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est un géographe célèbre, de même, le musée peut-il être regardé et donc élaboré comme un système d'exposition communiquant entre elles quel que soit le statut des œuvres présentées, qui n'importe pas en l'occurrence. En retournant le regard sur le musée et en mettant l'accent sur la question de l'exposition, du musée comme appareil expositionnel, nous n'avons pas seulement surmonté le handicap de notre déficit initial, mais nous avons fait de l'exposition, de l'exploration des enjeux et des formes des situations expositionnelles, le moteur du développement du MAMCO et, subsidiairement, de sa collection. Aujourd'hui, cette collection est riche de plus de 3000 items qui sont la mémoire de nos expositions et bien sûr notre inaliénable bien public. Mais ce n'est pas ainsi que je définirais ce qu'est notre collection. Elle n'est pas quantifiable. Aux œuvres acquises par achat et par don, beaucoup par don, s'ajoutent les 3000 dépôts d'artistes, de collectionneurs, de fondations publiques et privées, de plus de 100 provenances, suisses, européennes et américaines. Ces dépôts sont sans condition. À ces deux ensembles s'ajoutent aussi les œuvres auxquelles nous avons un accès privilégié, celles publiques des musées et fonds de Genève, celles privées des amis du MAMCO qui nous ouvrent libéralement leur collection. Mais ces milliers d'œuvres disponibles, plus de 10 000, pour notre travail d'exposition du musée, ne font pas encore le tout de nos collections. Les centaines d'expositions que nous avons créées en bientôt 20 ans au MAMCO, qu'il s'agisse d'expositions temporaires, le plus souvent monographiques, ou d'expositions avec les collections, ce que nous appelons maintenant les expositions dans la collection, ont multiplié les formes et les situations expositionnelles conçues comme une réflexion critique, continue, sur l'œuvre, sur le musée et sur l'exposition. Et c'est cet ensemble de formes, de situations et donc d'idées et d'affects qui constitue, à mes yeux, la véritable collection du MAMCO. Ce sont ces diverses modalités expositionnelles qui s'impriment dans la mémoire de nos visiteurs récurrents et qui font, plus ou moins consciemment, rémanence à chacune de leurs visites. La collection vivante du MAMCO est celle des souvenirs qu'en emportent nos visiteurs fidèles, ceux qui regardent les œuvres que nous leur montrons toujours autrement, avec la double vue de leur mémoire et de leurs yeux. Avec eux, le MAMCO sort des limites de ses murs et se diffuse dans la cité et au-delà, selon la capillarité des conversations communes et le caprice des réminiscences solitaires. Plus concrètement, le MAMCO déborde régulièrement de ses murs, non seulement à travers les prêts des œuvres de sa collection, mais surtout par sa capacité à opérer à l'extérieur, en organisant des expositions en Suisse ou à l'étranger, ou en assurant la direction de commandes. La direction artistique de différentes commandes publiques, le MAMCO s'est projeté au-delà de ses frontières physiques et institutionnelles pour définir son site partout où il pouvait agir en son nom, selon ses choix, ses méthodes, son style de travail. Mais c'est d'abord à l'intérieur de son propre bâtiment que notre musée s'est employé à faire bouger les lignes de la pratique muséale traditionnelle. En renouvelant 3 fois par an environ 80% de son offre expositionnelle, en ne dissociant pas les expositions temporaires de celles des collections. Il n'y a pas d'espace pour les unes et d'espace pour les autres. En les faisant retentir les unes sur les autres, en repensant leur tressage comme un processus dialectique offrant un parcours cohérent dans l'espace et dans le temps, en concevant dès l'origine le musée comme un théâtre de mémoire, en refusant de hiérarchiser les œuvres et d'en distribuer la présentation par école nationale ou régionale, par génération ou par chaîne thématique, en dessinant ces espaces de telle sorte qu'ils soient très différenciés, mais qu'ils demeurent proches des volumes domestiques, qu'ils favorisent la proximité, sinon la promiscuité des œuvres entre elles et avec les regardeurs, en travaillant l'accrochage « in progress » selon les logiques multiples du bon voisinage warburgien, en choisissant de toujours accrocher les œuvres à hauteur de regard, en sorte qu'elles ne toisent jamais les visiteurs, ni que ceux-ci ne les dominent, en gardant toujours l'espoir d'une horizontalité et d'une familiarité démocratique, j'ai bientôt fini, avec les œuvres, traitées selon une volonté résolument profane, hostile à toute emphase ou affaîtrie, sacralisante. Le MAMCO a cherché à modifier la conception globale du musée d'art contemporain, à l'écart des modes de l'époque. Il a tenté d'en changer le rythme et le style de vie, la morale et la passion. Aux limites que nous avions identifiées se sont donc ajoutées celles générées par l'évolution idéologique, politique et technique du monde qui ont assombri notre histoire. Nous n'avions d'autre choix que d'en faire une chance. La multitude de l'offre, la profusion et l'ubiguïté de l'information en temps réel, la disqualification des critères, leur conflit ou leur neutralisation, l'explosion des coûts, tout ce qui interdit le rêve d'exhaustivité et même de représentativité suffisante, tout cela est en fait occasion de liberté et de spécificité. Et je vais finir. En décidant, par exemple, de concentrer dans la durée notre attention sur un nombre restreint d'artistes, choisis pour leur caractère emblématique de certaines positions dans le champ artistique, théorique et muséographique, en maintenant et enrichissant nos ensembles monographiques évolutifs, en insistant ainsi sur nos orientations théoriques et politiques initiales, en accueillant cependant des positions nouvelles, parfois contradictoires, nous avons fait le choix d'une identité en devenir, indépendante de la pression des circonstances et de l'actualité. En plaçant le travail de l'exposition au centre de notre pratique, nous avons fait le choix d'un objet non déplaçable, du moins tel que nous le pratiquons, et non reproductible. En travaillant à la production d'une mémoire collective, par l'enchaînement constant des transformations globales du musée, faisant fond des souvenirs accumulés et des anamnèses suscitées par les effets d'écho ou de résurgence fantomatique, nous avons fait le choix de la construction d'un musée réel, infusé dans l'imaginaire collectif de ses visiteurs récurrents, en misant sur l'émotion du réel plutôt que sur l'information de l'écran, en concevant nos séquences comme des parcours dessinés pour offrir aux regardeurs d'infinies occasions de montage personnel, nous avons tâché de fabriquer un univers affectif commun où logerait une idée de l'art comme expérience de l'unique, jusque dans la variation et la répétition, et si désuète, ténue ou improbable que fût cette expérience. En cela, le musée physique réaffirme d'ailleurs sa vocation majeure de conservatoire de ce qui mérite de ne pas disparaître. Et c'est bien cette expérience de l'unique qui fait qu'il y a autant de MAMCO que d'esprits qui se nourrissent des souvenirs insuperposables qu'ils y ont construits contre l'oubli de l'art au profit des images, en y flânant, parmi les œuvres en dialogue, dans l'espace-temps de leur visite toujours inachevée. À l'heure de la vampirisation numérique des regardeurs et du monde, il est peut-être de plus grises ontophanies, de pires couchers de soleil.